RMC entre les poteaux,
Wilfried Templier.
Salut à toutes et à tous. Après les huitièmes de finale, retour de Coupe d'Europe qui ont vu la qualification de 4 clubs français pour le tour suivant. On en parlera un peu en dernière partie de podcast. On retrouve notre top 14 pour un sprint final de feu où quasiment 10 clubs peuvent prétendre encore à la qualification. On se dit que Pau, 10e à 7 points du Racing qui est 6e, part de loin. Mais on se dit aussi qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et dans ce passionnant printemps du rugby français, un club est sorti de son hibernation et alimente les chuchotements de ses concurrents. T'as vu, ils sont là quand même. Et oui, après 4 victoires lors des 5 derniers matchs, le Rugby Club Toulonnais fait figure d'immense outsider dans cette course aux 6. Mais comment c'est possible? D'ailleurs, le RCT a changé d'entraîneur fin octobre. Il était 12e fin février. Et depuis des mois, on se demandait plus si le club allait se sauver que s'il pourrait retrouver son standing après 2 saisons à ne pas vivre de phase finale. Mais il paraît qu'ici, tout est différent. C'est en tout cas ce qu'a dû découvrir notre invité. Lui est arrivé d'une autre saison difficile avec l'Aviron Bayonnais, mais son talent, entreaperçu depuis des mois, ne demandait qu'à s'exprimer ailier la plupart du temps sur la côte basque. Même si je suis sûr que vous ne connaissez pas vraiment son poste d'origine, c'est à l'arrière qu'il s'est imposé cette année sur la rade, et de telle manière qu'il a même été appelé à Marcoussis parmi les 42 bleus de Fabien Galthié. Aymeric Luc est l'une des révélations de la saison et on l'accueille dans quelques instants. Le César de la meilleure révélation, il l'a déjà eu. Je crois que c'était pour faire Saint-Gétorix. Enfin, il me semble. Bonjour Denis Charvet.
Ah, mais celle-là, je pensais pas que t'allais la faire.
César ou Oscar, ouais, de la meilleure révélation, ouais. Je ne sais même plus, d'accord.
Ouais,
d'accord.
Ouais, moi aussi,
ça va bien, Denis Charvet.
BAFTA. C'est ce que c'est,
bienvenue.
BAFTA.
Des BAFTA ?
Mais non, tu sais pas ce que non. C'est. T'as vu, je t'ai eu là.
Tu m'expliqueras. Le BAFA, oui. Ouais, ça, je crois que Jeff Paturo l'a. Et pour Jeff Paturo, ce week-end Pascal, c'était plutôt l'élévation que la révélation. La messe s'est bien passée, Jeff
Paturo ? Très bien. Et d'ailleurs, en parlant de messe, j'ai appris que Denis Charvet a fait une interview pour Cato Télé ou pour le jour du Seigneur.
Ça va,
quelque chose
obligé
comme ça.
Oui.
Je vous enverrai le lien, ceux qui veulent.
Non, t'arrêtes avec ça.
Je fais ça en magasin grâce à Morgane Maury.
Ça commence très très fort, hein, c'est entre les poteaux, messieurs. Allez, avant d'accueillir Aymeric Luc, on se dit qu'en rugby, tout va très vite. On peut passer de Toulon à Dallas et en quelques mois, de Dallas, revenir à Toulon.
Le score est lourd parce que quand il y a des scores comme ça, souvent il y a une démission collective.
On est où on est. Le résultat, c'est le résultat, on ne peut pas changer.
Ça fait quelques saisons que c'est dur d'être supporter. Bon. On fait le dos rond, on attend.
Ce soir, j'aurais aimé qu'on me soit pris sur le collectif. On n'est pas pris sur le collectif ce soir.
Vous savez, je reste mesuré même quand c'est bien.
Justement, ferme un peu ta gueule ou je monte.
Donc, je reste mesuré même quand c'est moins bien.
Mais c'est pas de la confiance. À quelle heure c'est de la confiance d'attraper un ballon et d'aller marquer?
Je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour le club. Mais je trouve que le moment est arrivé de se taire et de gagner. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de gens qui expliquent comment gagner alors qu'ils n'ont rien gagné. Et donc maintenant, je crois qu'il faut se taire et gagner.
Sans le notre ennemi, le noir pour notre deuil.
Oh, tu as connaissé Denis, celle-ci de Philippe
non,
Catherine là?
Pas du tout.
C'est une riche idée de Pierre Amiche hein, qui produit le podcast. Moi non plus, c'est, voilà, on peut la passer à Mayol peut-être. Est-ce que tout est différent, Denis, à Mayol
le slogan.
C'est-à-dire on passe en quelques mois, on a tout vécu là depuis. On va accueillir Aymeric Luc dans quelques instants, mais voilà, c'est, tout va très vite dans un sens ou dans l'autre.
Tout va très vite. En même temps, c'est pas, je suis pas étonné parce que la qualité qu'ils ont, l'effectif qu'ils ont, qui est monstrueux. On pourrait penser qu'aujourd'hui ils joueraient le haut du tableau, voire les deux premières places. C'est que c'est même c'est un échec total qu'ils soient à cette place de septième, c'est ça, hein, je me trompe pas. Et en même temps, ils ont eu des blessés, ils ont eu quelques contraintes et aujourd'hui ils récupèrent sur leur effectif et crois-moi, cette fin de saison pour les adversaires qu'ils vont affronter, je leur souhaite bon courage.
Mais ce qui est vrai, c'est que tout est différent parce qu'il y a une passion qui est différente. Non, c'est un club avec un engouement, des supporters qui signent une pétition pour qu'un joueur reste, des supporters qui faisaient quasiment la grève, des encouragements il n'y a pas si longtemps. On voit pas ça dans beaucoup de clubs français.
Il y a aussi le fait qu'ils ont été extrêmement gâté les dernières années.
Vrai.
Donc si tu veux, tu passes après 3 titres de champion d'Europe, un titre de champion de France, donc l'attente est encore là et sera toujours là, mais encore.
Mais tu penses que c'est inévitable de après tout ce qu'ils ont gagné de vivre un cycle plus bas?
Quand t'es gâté après, t'as envie de, mais quand t'es habitué aux bonnes choses, t'as envie de regoûter. Donc c'est logique. Et puis en plus c'est un public de passionnés qui est connaisseur, qui aime ça. Donc ce qui est anormal, c'est que tu fais des efforts en tant que président de recruter des grands joueurs, tu les as et avec ça ça fonctionne pas. Donc c'est ça qui est un peu frustrant pour les supporters, il me semble.
Les punchlines sont un peu moins de sortie, on a retrouvé le sourire. Bonjour Aymeric Luc.
Bonjour.
Vous avez retrouvé le sourire?
Oui, évidemment.
Ça va mieux, on se sent mieux là. C'est plus le printemps qu'on sort de l'hiver.
Exactement, on sort de l'hiver et ce qui se disait un peu en coulisses, c'était que le muguet refleurissait.
Ah oui. Bah oui, on y arrive, on est presque le 1er mai, ça tombe bien. Merci d'être avec nous dans Entre les poteaux pour évoquer votre saison et plus largement votre actualité des derniers mois qui n'a pas manqué d'intérêt. Alors pour ce qui est de l'actu chaud d'Emeric, c'est une qualification pour les quarts de finale de la Challenge Cup, victoire 36-17 face à Trévis samedi. Vous affronterez les London Irish qui ont éliminé Castres. Tout n'a pas été parfait samedi, mais vous avez fait le job, on va dire.
Oui, tout n'a pas été parfait, mais ça c'est dû à une très bonne opposition de Trévis qui, voilà, a montré beaucoup de caractère et un état d'esprit qu'on connaît des Italiens, avec une équipe qui comportait beaucoup d'internationaux italiens. Donc on a ressenti cet état d'esprit et c'est pour ça qu'ils ont rien lâché du début jusqu'à la fin du match. Et c'est vrai que ça nous a mis beaucoup en difficulté. On s'en est quand même sorti, donc on est content.
Quel intérêt on porte à cette compétition, Emeric? Est-ce qu'il y a une vraie envie d'ajouter cette ligne au palmarès, même si, bon, il faut l'avouer, c'est un peu moins prestigieux que la Champions Cup?
Évidemment, c'est moins prestigieux que la Champions Cup, mais je pense que dès qu'on sort quand même de la phase de poule, on commence à rencontrer des équipes vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Et c'est l'opportunité de jouer une belle compétition, de changer les idées aussi par rapport au top 14. Donc de sortir de la routine et puis voilà, ça reste quand même une compétition, ça reste des phases finales, ça reste un titre au bout, donc c'est très très puis, enrichissant et très exaltant.
Et puis il y a une perspective qui est formidable, c'est cette finale au Vélodrome. Donc on peut penser qu'en recevant un quart, en recevant en demi-finale,
c'est les Saracens possiblement.
Oui, possible, mais bon, t'as quand même les armes pour aller au bout, quoi, non? C'est ça qui doit être motivant chez vous, non?
Mais évidemment, depuis le début qu'on a su que la finale se situait à Marseille, on avait une envie supplémentaire d'y aller, voilà, parce que c'est presque comme jouer à domicile, hein, c'est à peine à une heure, voire moins. Donc voilà, non, évidemment, c'est quelque chose qu'on a en tête et qu'on va tout faire pour y arriver.
Et puis accessoirement, c'est une qualification pour la prochaine Champions Cup. Si vous gagnez cette compétition, on n'en est pas là. Et peut-être que le RCT peut aller chercher sa qualif sur les terrains du top 14, on va en reparler. Mais Emeric, on le disait avant que vous arriviez, votre équipe était dans les cordes jusque cet hiver, hein, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Il s'est passé quoi?
Ben, il s'est passé quoi? Bon, voilà, il n'y a pas de secret. Tout le monde sait qu'on a changé, voilà, de manager et Franck Azema a essayé d'apporter de la nouveauté, d'apporter un cadre, d'apporter quelques choses qui manquaient. Il n'a pas tout révolutionné parce que malgré les résultats qui étaient décevants, il y avait quand même une base de travail et il y avait des choses qui fonctionnaient. Mais il manquait ce petit truc pour faire de cette équipe ce qu'elle propose aujourd'hui. Et Franck l'a amené et voilà, en travaillant de semaine en semaine, on a réussi à reprendre confiance et à remettre la marche avant, que ce soit devant comme derrière, et de pouvoir faire des prestations comme on a fait.
Emeric, est-ce que la méthode de Franck Azema, elle est peut-être plus dans l'affectif? Est-ce que ça vous change aussi? Est-ce que ça vous a transformé?
Vous m'avez dit plus dans l'affectif?
Ouais, plus davantage dans l'affectif, ouais.
À son arrivée, en fait, Franck, il a remis un peu les choses à plat, de manière à être transparent avec l'ensemble du groupe et à repartir sur des bases. Et c'est ça qui nous a fait beaucoup de bien, parce que évidemment, voilà, quand on change d'entraîneur comme ça, toutes les cartes sont redistribuées, on repart sur les bases, et ça a fait du bien, à tout le monde. Donc forcément, sa technique de management a pris. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on en est là et qu'on prend du plaisir, notamment sur le terrain.
Mais Emeric, il faut être réaliste aujourd'hui, enfin lucide, c'est-à-dire que vous mettez 40 points à La Rochelle, 40 points à Lyon, 40 points à Biarritz. On se dit quand même que là vous marchez sur l'eau, mais en même temps que vous allez être presque imbattable. Donc évidemment qu'il y a deux déplacements périlleux à Bègles, si je ne me trompe pas, et au Racing pour finir, mais je pense que dans les têtes aujourd'hui vous allez être monstrueux, non?
Oui, dans les têtes, on a certaines, on a des certitudes, mais ça fait pas tout. On analyse nos matchs, on voit bien que tout n'est pas parfait, qu'on a beaucoup de marge de progression. Après, voilà, on joue aussi, je pense, sur un peu d'énergie. On a eu malheureusement beaucoup de blessures et d'absences en début de saison, et du coup, on arrive aujourd'hui avec un effectif qui est plutôt frais, puisque en fait, ils ont repris cette compétition, le top 14, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense à des joueurs très importants comme, comme Eben Etzebeth, comme Charles Olivon, comme Baptiste Serin aussi, qui n'était pas là en début de saison et qui nous apporte beaucoup depuis son retour en fin d'année dernière. Donc voilà, c'est...
Mais quel était le rôle de ces leaders? Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans cette remontée, ce renouveau?
Eh ben, ils ont participé avec Franck Azéma à remettre l'église au centre du village, si je peux dire, à repartir sur les bases, à construire tous ensemble, avoir un objectif commun, pas partir dans tous les sens et se recentrer sur l'objectif de l'équipe et du club. Donc ces joueurs-là, ils ont été précieux pour ça. Et après, là, il y a les mots, mais après, il y a les actes sur le terrain, toute la sérénité qu'ils peuvent nous apporter, que ce soit sur la conquête, que ce soit sur le combat, que ce soit sur la gestion d'un match.
Ouais, vous l'avez dit, vous avez vu le retour de Charles Olivon. Il rayonne actuellement, il vous donne une autre dimension, là.
Oui, moi, je ne connaissais pas Charles avant d'arriver à Toulon. Voilà, c'est un joueur qui apporte beaucoup en termes de sérénité, qui dégage beaucoup de confiance en lui, mais aussi en les autres. Quand on est à côté de lui, voilà, on se sent rassuré, on sait que tout va bien se passer et que tout le monde va dans le même sens. Et ça, c'est très important au niveau de la tête.
Denis,
bon, j'aimerais parler qu'on parle de toi quand même, parce qu'on parle des autres, mais c'est important de parler de toi, parce qu'on t'a l'antenne. Moi, je te connais parce que je te vois jouer, je te vois évoluer, et puis tu es un garçon qui est très surprenant, parce que tu prends des risques à tous les matchs, tu oses tout simplement, ce que j'adore, moi. Tu as toujours été ce joueur-là, est-ce que tu as démarré à l'aile, il me semble. Donc, mais...
Est-ce que tu connais son vrai poste, Denis?
Son vrai poste, il n'a pas été formé à
la question à 100 000.
Demain l'ouverture? Non.
Ah, pas loin.
Il y a joué une fois.
Vous 2000 mêlées,
ouais. Mais peu importe. Ce que je voulais dire, c'est cette confiance que tu dégages, en fait. Est-ce que tu as toujours été comme ça depuis tout petit, ou c'est presque inné, j'ai envie de te dire, parce que tu es tellement à l'aise quand tu prends ce ballon et tu repars de l'arrière. Il n'y a rien qui t'arrête, en fait.
Non, je sais pas si ça a toujours été comme ça. Après, ce qui est sûr, c'est que je joue encore au rugby comme quand j'y jouais il y a 10 ans. Et que ça reste un jeu et que ça reste ma passion avant tout, et voilà, je prends les choses comme ça, et après j'essaie de jouer le plus juste possible, on va dire, dans la mesure du possible. Après bien évidemment parfois je me trompe, mais j'essaie de jouer par rapport à ce que j'ai en face, peu importe la zone du terrain, et m'adapter aux situations. Et pour l'instant, ça me sourit, donc tant mieux.
Et j'imagine que Franck Azéma, lui, tu n'as aucune consigne, que tu fais ce que tu veux sur le terrain.
Mais bon, pour l'instant, il me fait confiance. Voilà, il sait quand même qu'il faut me rappeler qu'il faut trier les ballons, que tous les ballons ne sont pas bons à relancer, à courir partout. Mais ça, j'essaie de l'assimiler et de l'appliquer sur le terrain. J'en ai aussi conscience. Mais voilà, non, ça se passe bien pour l'instant. Franck me donne beaucoup de temps de jeu et ça me permet de progresser et de prendre confiance, donc c'est bon.
Et Aymeric, justement, tu parles de ton temps de jeu. 24 matchs depuis le début de saison, 21 fois titulaire. Pas beaucoup de fois à l'aile. Tu jouais plus souvent à l'aile la saison dernière à Bayonne, si je ne dis pas de bêtises, souvent titularisé à l'arrière. On a l'impression que ton intégration depuis le début de saison, elle s'est faite naturellement, que tu es l'une des satisfactions de la saison, même si tu vas rester modeste et parler du collectif,
oui,
comme tous les sportifs et rugbyman. On a l'impression que ça s'est fait assez facilement, non?
Oui, ça s'est fait facilement. C'est vrai que l'année dernière, je jouais pas mal à l'aile, notamment parce qu'à l'aviron, il y avait
Gaëtan Germain.
Et oui, qui nous apportait beaucoup par son jeu au pied et qui était à l'arrière, donc il était indéboulonnable. Voilà. Après, moi, j'ai toujours plus joué à l'arrière qu'à l'aile. J'ai vraiment démarré à jouer uniquement l'année dernière. Après, voilà, je suis arrivé à Toulon sans aucune prétention de vouloir jouer à l'arrière ou à l'aile. Tant qu'on me mettait sur le terrain ou sur la feuille de match, ça m'allait. Voilà, là maintenant je me rends compte que oui, j'ai fait une grosse partie de la saison. J'en suis très content, parce que assimiler autant de temps de jeu, c'est top pour la confiance, pour l'expérience. Donc c'est vrai qu'on n'en demande pas tant. Et voilà, maintenant le groupe a été très accueillant au début et m'a permis de bien m'intégrer. Voilà, malgré les mauvais résultats, j'ai eu la chance d'enchaîner les matchs et voilà, ça permet d'engranger de la confiance et ça c'est très important.
C'est entre les poteaux, on a Aymeric Luc, l'arrière du RCT, en invité. Denis, une autre question ?
Ben oui, je suis obligé de la poser. Quand on voit l'ascension fulgurante de Melvin Jaminet, toi c'est un peu la même chose, c'est un peu les mêmes trajectoires, on a l'impression que ben, toi t'es presque inarrêtable.
Tu veux signer à Toulouse ?
Tu ne vas pas signer à Toulouse, mais tu dois rêver à l'équipe de France, j'imagine, dans ton coin de ta tête.
On précise juste, Aymeric, que vous avez fait partie depuis l'automne dernier des 42 pour les préparer mal de matchs.
Oui, quand je dis, je précise que tu penses à l'équipe de France, c'est de l'intégrer, de jouer en équipe de France, évidemment.
Non, j'y pense pas vraiment.
En vrai.
Évidemment. Non, mais évidemment, je prouve. Ben voilà, quand il m'appelle, je suis très content de monter à Marcoussis pour m'entraîner avec le 15 et pour apprendre encore une fois au quotidien. Maintenant, les saisons en fait en top 14 sont tellement compliquées, surtout voilà quand on a la chance comme ça de jouer tous les week-ends, et ben c'est très compliqué, donc on se focalise d'abord sur ça parce que c'est important. Après, évidemment, on sait que parfois on peut avoir des opportunités qu'il faut les saisir. Donc voilà, pour l'instant, j'y passe pas vraiment parce que je pense que ce serait bête. Enfin, il y a déjà assez de pression avec Toulon pour ne pas s'en rajouter avec l'étage supérieur. Donc voilà.
Si ça vient, ça viendra.
Concentré sur Toulon. Aymeric. Exactement.
C'est ce que je veux dire. Il y a peu, les poteaux ont fait des paris concernant les qualifiés. Et on vous avoue, moi j'ai vérifié, personne ne vous a mis dedans.
Hein. C'était avant la victoire à Lyon.
Hein. Oui.
C'était avant la victoire à Lyon. Bah oui, mais les gars, on va pas changer chaque journée, les gars. Ah, bon, si. Il faut dire. Alors, on va préciser, Aymeric, qu'il vous faut quasi un sans faute. Vous recevez Toulouse, vous allez à l'UBB, vous recevez Pau et vous allez au Racing. Avec 5 points de retard sur ces mêmes Racingmen. Hein. Il y a une concurrence avec les clubs devant. C'est-à-dire, en fait, il faut compter sur une des défaillances de Lyon et Clermont. Mais il faut tout gagner, Aymeric, en fait, a priori,
sûr,
si vous voulez intégrer
sûr.
Les 6. Bah, comment sûr. Vous le voyez, vous, Aymeric ?
Ouais, j'ai l'impression que si on veut être maître de notre destin, il faut tout gagner. Donc ça, évidemment, ce sera délicat, mais voilà, c'est faisable par rapport à notre dynamique, évidemment. Mmh. Après, derrière, si jamais on fait un faux pas ou autre, il faudra compter, en effet, sur les résultats des autres équipes. Mais voilà,
il y a la belle carotte.
C'est ça, exactement. Après, c'est un championnat tellement imprévisible qu'il peut tout se passer.
Bon, ça commence samedi, Toulon-Toulouse à 21h au Stade Vélodrome, qui pour le coup sera plein. Hein. Aymeric, cette affiche, ce cadre, ça met des étoiles dans les yeux ?
Oui, ben, c'est sûr. C'est sûr que pour ma part, je ne m'attendais pas à jouer un match comme ça. Voilà, dans de telles conditions, dans un stade comme celui-ci, avec un stade à guichet fermé, je pense que ça va être une belle fête et tous les acteurs qui seront présents sur le terrain vont en profiter et prendre beaucoup de plaisir, je pense.
Vous aimez le foot ?
Oui, je regarde un peu.
Bon, d'accord. Je vous demande pas si vous êtes supporter de l'OM, si c'est pas le cas, si vous êtes supporter du PSG, je vous demande même pas parce qu'après, ce serait pas un cadeau. On vous remercie, Aymeric. On va finir avec les poteaux. On vous remercie d'être venu quelques minutes avec nous. C'était sympa. On vous souhaite une belle fin de championnat.
Pour continuer comme
ça. Et puis peut-être un grand bonheur un peu plus tard. On va pas parler de la Coupe du Monde, mais on vous le souhaite en tout cas.
Et puis entendre un joueur dire je joue encore comme je jouais il y a 10 ans. Et que j'ai toujours
ça te fait plaisir, ça, toi.
Ah oui, c'est génial. Bravo, continue. Voilà, continue. Tu seras ma base un jour.
Ah, voilà, ça peut être sympa, ça. Il faut passer par entre les poteaux, en fait, le podcast, pour être Babariance, après quoi.
Ah, bravo, continue comme ça, c'est super. Ne change rien.
C'est une convocation, Denis, ou...
Non, il le mérite, j'espère qu'il ira à l'équipe de France avant nous.
Ah, voilà, oui, d'accord. On lui souhaite l'équipe de France, et autrement... Ah, peut-être les babas. Merci, Aymeric, à bientôt.
Super, merci. Merci. Au revoir.
Merci. On continue les poteaux. Alors, je vous parlais de ces pronostics. Hein, d'ailleurs, on continue sur Toulon. Avant de me dire si vous pensez que le RCT va le faire, parce que évidemment, ça change. Hein, chaque semaine, Denis avait dit non, après, ça peut être oui.
Et puis l'inverse, ça se passe même pas. C'est très différent.
J'ai dit Toulon, 5 points de retard sur le Racing, Denis.
Le problème, c'est que l'appétit vient en mangeant. Donc aujourd'hui, avec tout leur effectif au complet, quand tu vois le triangle de derrière entre Colby, Luc et Villers, tu te dis, mais ils ont quand même une force offensive absolument incroyable. C'est costaud partout devant Elsebetz. Maintenant, il devient le patron. Il est assez impressionnant de match après match. Il n'y a pas de faille. Donc, tu peux te dire que Toulon, ils vont sûrement l'emporter face à Toulouse, qui Toulouse a quand même des échéances, des grosses échéances avant. Ça ne va pas être leur match en priorité. Et puis derrière,
Tu vas à l'UBB qui est mal en point, qui doit absolument gagner. L'UBB, tu peux contrarier. Et après, toujours Racing qui va vouloir se qualifier aussi.
Oui, mais je reviens à ce que tu disais. C'est pas sûr que 4 matchs soient suffisants. Mmh. Tu peux gagner 3 matchs et être qualifié.
Ça dépend des autres, mais Denis, il faut des défaillances aussi de Clermont, de Lyon. C'est qu'il y a des mondes devant. C'est que s'ils gagnent que 3 matchs, il faut non seulement que le Racing en perde 2.
Là ils sont 9e avec 5 points de retard sur le Racing qui est 6e.
Ouais. Oui, mais il y a du monde entre les deux, donc ça veut dire que c'est une équation à plusieurs inconnus.
Je les vois bien s'imposer partout. Voilà, moi, d'accord. Je vous le dis, je vois les.
Donc tu vois battre Toulouse à l'UBB, battre Pau à domicile et gagner au Racing sur la dernière journée. Il y a un Racing qui peut être incroyable.
Je te dis, avec le triangle d'attaque avec sur le synthétique, bonjour. Hein.
Ouais. Juste avant
ça va être quelque chose au Racing.
Dans quelques instants, on va écouter Gabin Villiers. Jeff, la chance pour Toulon, c'est que dès les premiers matchs, c'est que Toulouse ne mettra peut-être pas toutes ses forces dans ce rendez-vous samedi au Vélodrome.
Ouais, effectivement, il y a plusieurs aspects. Il y a des joueurs blessés et des joueurs qui ont vraiment besoin de souffler après le tour, notamment après le tour Destination. Parmi les blessés, la liste est assez longue. Yuyut, Placine, Guitoun, Chocobarès, Lebel, Bonneval et Brennan. Suspendu, Malia, incertain pour ce week-end, Bail, Cross et Holmes. Et des joueurs qui pourraient être au repos, Movaka et surtout Dupont et Ntamack ont beaucoup donné durant les semaines dernières avec les Bleus et le Grand Chelem. On a vu un Antoine Dupont peut-être pas aussi rayonnant que d'habitude en Ulster ce week-end, même s'il marque l'essai de la victoire. Et c'est vrai que cette équipe du Stade Toulousain, ça ne sera pas la meilleure équipe sur le papier, mais qui peut aussi poser malgré tout des problèmes, quoi.
Je pense que Toulouse vise la venue de La Rochelle au stadium derrière et ensuite le déplacement à Brive et la réception de Biarritz. Et voilà, il va falloir composer puisque Toulouse va jouer en Coupe d'Europe. On va en parler dans un instant. Donc, je disais, Toulon, c'est leur phase finale un peu, hein, 32e, 16e, ça va être un peu ça. Écoutez l'ailier Gabin Villiers, à la fois sur cette fin de saison, mais aussi sur le choc qui attend les Toulonnais samedi au Vélodrome face au Stade Toulousain.
On a basculé un peu en mode phase finale depuis 2 semaines déjà et on sait que tous les matchs sont des matchs couperés. Donc, à partir du moment où on en perdra un dans une des compétitions, on sait qu'on sera éliminé. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se focaliser sur chaque week-end et ça va être très dur, il y a encore beaucoup de chemin mais non on n'avait pas encore la tête en tous les cas à Toulouse. Je pense que ça ajoute de l'excitation, la plupart des mecs ont déjà joué je pense à haut niveau et connaissent, mais c'est vrai qu'il y en a peut-être certains qui n'ont pas forcément l'habitude, mais je pense que ça va être une pression supplémentaire et surtout une excitation supplémentaire. Je pense que ça va galvaniser les mecs de pouvoir vivre ce genre de moment avec notre public chez nous. Donc non, je pense beaucoup d'excitation, surtout de se retrouver au milieu de ce stade avec sûrement une ambiance de fou. Donc on sera très excité par l'événement.
Et puis
des fins de saison comme celle-là. Souvenez-vous, il y a eu le Stade français en 2015.
La saison dernière aussi quand ils sont revenus.
La saison dernière exactement, qui sont qualifiés au dernier moment. Il y a eu Castres à une époque. Bon, on a vu plein d'exemples et voilà. Donc
t'as la confiance qui vient.
C'est ce que j'allais dire. La confiance, c'est-à-dire que quand tu vois les matchs qui se disputent à Lyon, tu te dis mais ils sont inébranlables. C'est-à-dire que la vérité, c'est que s'ils sont capables de réitérer ce genre de performance, mais je pense qu'ils sont inarrêtables.
Il faut regarder les stats sur les derniers matchs. Sur les 8 derniers matchs, ça fait 6 victoires, 28 points sur 40. Sur les 5 dernières rencontres, 20 points pris. 3 victoires à plus de 40 points, tu le disais Denis tout à l'heure, contre Biarritz, La Rochelle et Lyon. 3 bonus offensifs. Et sur les 8 dernières rencontres, ça fait 30 points marqués pour 16 points encaissés. Tous les voyants sont ouverts depuis quelques semaines. On a le sentiment que vraiment cette équipe est à vraiment lancée. Peut-être qu'ils avaient moins de pression ces dernières semaines et que maintenant la pression peut aussi les rattraper.
Et puis il y a des clubs aussi, il va falloir composer messieurs avec la Coupe d'Europe pour d'autres aussi, le Racing notamment qui a volonté d'aller jusqu'au bout, qui va recevoir en quart, qui peut recevoir La Rochelle en demi, La Rochelle va aussi laisser des plumes, Toulouse donc. Et bon, juste à titre de comparaison, le Racing qui est devant, donc on disait, reçoit Biarritz, va à Pau, va à Montpellier et reçoit Toulon. C'est vrai qu'ils peuvent peut-être chuter à Montpellier et recevoir Toulon avec une grosse pression. Vous imaginez ce Racing-Toulon à la fin?
Non, parce que le Racing, s'il gagne 2 matchs sur 3, je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin du 4e match. Donc
Non, mais là, regardez, reçoit Biarritz, va à Pau. Ils sont capables de gagner à Pau, mais va à Montpellier. S'ils ont perdu à Montpellier, Toulon peut se rapprocher. Et le dernier match face à Toulon peut être décisif. S'ils font 2 sur 4, s'ils perdent Toulon la dernière, ils peuvent se faire doubler. Mais ça, c'est un match qui serait exceptionnel sur cette cette dernière et 26e journée. Ça va être encore génial. Jeff, juste un mot, et après on dira juste un mot de la Coupe d'Europe avant. On se dit qu'au-delà de cette saison, le RCT a déjà bien préparé la suivante. Hein. On bosse actuellement.
Oui, effectivement, en coulisses, ça bosse depuis quelques semaines, voire quelques mois. Il faut rappeler aussi qu'on s'est dit cet hiver, en février, lorsqu'ils étaient derniers, les Toulonnais, derniers après 17 journées top 14, qu'il fallait sérieusement peut-être se remettre en question, se renforcer pour les saisons à venir. Et c'est vrai que sur le recrutement, ça a bossé dur avec plusieurs joueurs intéressants qui vont arriver. Teddy Bobigny, le talonneur du Racing 92, Dany Prizot, le pilier de La Rochelle, Mathieu Tanguy, le deuxième ligne de La Rochelle également, Yaya West, l'ouvreur de La Rochelle, YCA, ça c'est vraiment la recrue du Stade français qui est en fin de contrat que le club parisien n'a pas pu garder. Il y a aussi des prolongations qui ont été effectuées ces derniers temps, Sorin, Tolofoua, Rebadj, Isa et Sergio Parisse qui est bien parti pour empiler pour une année de plus à Toulon.
Ça, c'est une bonne chose
en revanche, il y a des départs importants puisque au centre, on voit que YCA sera un renfort considérable. Mais à l'ouverture, où pour l'instant West arrive, mais on ne sait pas qui sera l'autre ouvreur, puisque Bello et surtout Carbonel s'en vont. Carbonel qui signe au MHR.
Au grand désespoir
des supporters toulonnais qui ont demandé vraiment son maintien avec une pétition. Et Edsebes qui s'en va alors qu'il redevient rayonnant. Il y a encore des chantiers dans cette équipe. Ça, c'est pour les joueurs. Et on rappelle aussi qu'il y a un certain Pierre Mignoni qui arrive dans le staff pour bosser avec Franck Azéma, qui va renforcer le staff. Et Romain Poit, dont on a parlé ces derniers temps aussi, l'arbitre international, qui sera aussi dans l'encadrement technique du RCT.
Denis, juste pour finir sur le Toulon, c'est un énorme coup de la part de Montpellier. Ça te fait bizarre quand même, Carbonel, joueur formé comme ça. Il part dans... C'est il y a quelques mois que ça s'est fait, en fait, avant que ça remonte un peu la pente. Et...
C'est assez inexplicable dans la mesure où il avait encore les clés du camion. Il pouvait rester au club, Bello partait, donc il aurait été le taulier l'an prochain. Donc ça ne s'est pas fait parce que, comme les divorces, ça s'est mal passé. C'est un divorce. Et malheureusement, c'est intervenu, souvenez-vous, au moment où Colosso s'en va et que lui prend parti. Et donc... Ouais. C'est malheureux parce qu'il était bien là-bas et que je pense qu'en étant le taulier, peut-être que ça aurait changé beaucoup de choses pour lui.
Il n'y a aucune chance
Non. Si jamais, par exemple, le RCT se dit « Tiens, ce serait pas mal qu'on le garde », il va falloir sortir le chéquier, repayer le contrat, les indemnités, c'est impossible.
Oui, et puis c'est pas bon de garder un joueur qui veut partir.
C'est impossible.
En plus, je pense qu'aujourd'hui, dans sa tête, lui, il est parti. Voilà, donc,
peut-être qu'il reviendra un jour, comme disait Bernard Lemaitre il y a quelques temps, peut-être que dans son futur, il reviendra à Mayol pour jouer avec le maillot du RCT, mais pas dans les années à venir. Ouais.
C'est un gros coup pour Montpellier de récupérer Carbonel qui est stratosphérique en ce moment.
Mais après, je ne suis pas sûr que West il viendra un peu de taulier.
Il faut un autre.
Est-ce que ce sera un numéro 1 qui arrivera?
Il faut déjà trouver quelqu'un, c'est le problème.
Oui, trouver quelqu'un, ils trouveront.
Pour l'instant, ils galèrent un peu, Denis.
Oui, mais bon, tu sais très bien que...
Trouver un ouvreur de niveau international à un an de la Coupe du Monde, ils ont des pistes dans l'hémisphère sud qui aboutissent pas et c'est compliqué.
Yaya West fait des très gros matchs en ce moment. Alors, les pénalités, c'est celles qu'il faut mettre en finale, vous allez me dire, c'est pas celle-ci. Mais en ce moment, il enchaîne, c'est un sacré joueur à la main.
Il faut les mettre en finale, exactement.
Oui, après, c'est sûr qu'on verra cette fin de saison avec La Rochelle s'il vaincra le signe indien. Juste pour terminer, on vous donne les affiches des quarts de finale de Champions Cup. Imaginez, côté gauche du tableau, Racing Sale en haut et La Rochelle-Montpellier en bas. Le Racing recevra en demi s'il se qualifie. Jeff, ce serait peut-être à Lens.
En demi-finale, ça jouera à Paris de la Défense à l'Arena. Et après, contre le vainqueur de La Rochelle-Montpellier, le match aurait lieu à Lens puisque Paris de la Défense Arena sera occupé par Section d'Assaut, le groupe préféré de Denis Charvet.
C'est vrai, il y va en plus, il a ses billets. Et de l'autre côté du tableau, Munster-Toulouse à l'Aviva Stadium. Alors là, c'est pareil, c'est Ed Sheeran qui fait un concert à Thomond Park. Ouais. Et le Munster va jouer à l'Aviva, c'est peut-être pas plus mal.
Bon pour le stade. Ils se qualifient, joueront aussi à l'Aviva en demi-finale.
Mais c'est bon pour le stade.
C'est bon pour le stade, Denis, mais il y en a quand même 50 à 60 000 en rouge là qui seront dans l'Aviva Stadium. C'est bon pour les finances du Munster, mais ça dit pas qu'il y aura pas...
Leur stade fétiche, c'est pas la même.
Donc Munster-Toulouse d'un côté.
Dans un stade d'abord que les intendants français que je connaisse bien.
Et là, il y a un Leinster en quart de finale aussi, avec du feu de Dieu là, dans ce même côté du tableau. Si Toulouse se qualifie pour les demi, les Toulousains se déplaceront encore, soit en Angleterre, donc à Leinster, soit de nouveau à la Viva pour jouer le Leinster. Deux week-ends de suite, car quart et demi s'enchaînent les 7 et 14 mai.
C'est Leinster qui reçoit, c'est ça?
Oui.
Leinster reçoit le Leinster.
Qui reçoit le Leinster. C'est pas fait pour les Irlandais. Votre billet va sur qui? Donnez-moi les demi-finales.
Vas-y, Denis.
On parie pas de resto. Le Racing favori face à Sale.
L'accent de.
Favori, mais ça va être compliqué face à Sale et la colonie sud-africaine, ça va pas être simple.
De quoi ?
L'équipe de Sale, là, ils ont beaucoup de Sud-Africains, c'est une avec de Clerc et compagnie, c'est une équipe.
Et oui, il n'y a pas le Racing passé.
Le Racing,
il
le Racing l'a passé.
Ah si, Racing, non, Denis ?
Oui, je pense. Mais attention, attention.
Pas sûr. Ils ont été bougés par le Stade français.
Il faut qu'ils soient meilleurs.
Non, ouais, mais, non, mais Jeff a raison de préciser quand même que Sale a fait de très bonnes huitièmes de finale et contre,
contre Bristol.
Bristol, qui est quand même une grosse équipe anglaise.
Oui, on pensait que Bristol passerait.
On pensait que Bristol était favori et à l'arrivée, mais Sale s'est qualifié avec. Il n'y a que des Sudaf là. Donc, c'est,
d'accord. Donc c'est
ça
pas.
Va, ça va piquer devant.
Une autoroute pour le Racing.
Racing La Rochelle en demi-finale, allez.
Racing La Rochelle. La Rochelle-Montpellier, Denis ?
Racing La Rochelle, oui.
Non, Montpellier La Rochelle.
Encore faut se méfier de cette surprenante équipe de Montpellier.
Racing La Rochelle et Leinster en demi-finale face à Toulouse.
Voilà.
D'accord, à nouveau la Viva. Voilà. Si on en même temps, on fait entre les poteaux, on fait les paris RMC et on fait tout dans cette émission.
Et la finale, 27-28 mai à Marseille, les deux au stade Vélodrome. Allez-y.
On y sera, l'équipe.
On y sera.
Bien sûr qu'on y sera.
Bien sûr. On suivra ça. Deux journées de top 14 avant. Bientôt, on va s'intéresser peut-être aux promus aussi. Ça fait des semaines qu'on en parle dans ce podcast. On ira peut-être voir du côté de Perpignan, savoir si les promus peuvent se maintenir. Merci Denis.
Merci.
Merci et Jeff.
Merci.
Merci Pierre.
C'était encore bien meilleur que Christophe.
Monsieur Torres.
Bien meilleur. C'est sûr. Bravo.
C'est sûr. Il faut signer une pétition pour qu'il ne revienne plus jamais.
Ah bah il revient. Parce qu'il revient vraiment.
Ah, c'est
pas bon. Il n'est pas encore
en courant. Coulisses.
Allez, on espère que vous avez aimé ce podcast. J'ai la mini-charge d'attitude là. Ce podcast. On vous dit à la semaine prochaine.
Ça, j'aurais pu le faire moi. Podcast. Podcast. J'aurais pu le faire.
Allez, salut.